L'été, on passe les frontières. L'actualité à l'étranger, c'est avec Courrier International, notre partenaire, et Ingrid Terwatt. Bonjour.
Bonjour Amélie.
Ravie de vous retrouver cet été, Ingrid. Et dans l'actualité, vous avez retenu cette semaine une photo.
A tragic image from the southern border reveals the grim reality facing many Central American migrants who make the dangerous journey. We warn you, the photo you're about to see is disturbing.
Voilà, c'est une photo d'un père et de sa fille morts noyés dans le Rio Grande alors qu'ils tentaient de rejoindre les États-Unis. Mais ils se sont heurtés à la politique anti-migrant du président Trump. Ingrid, cette politique fait réagir la presse.
Oui, Amélie, la presse réagit et elle se pose une question très simple. Combien de morts faudra-t-il pour qu'on arrête d'infliger aux migrants des traitements inhumains ? Combien de morts ? Parce que chaque semaine, presque chaque jour, un nouveau scandale éclate. Alors on pense à cette photo dont vous parliez d'un père noyé avec sa petite fille. On pense aussi aux enfants placés dans des centres de rétention, tout seuls et sans aucun produit d'hygiène. En fait, la liste est longue. À Los Angeles, le Los Angeles Times parle de conditions inhumaines aboutissant parfois à la mort. Le journal ajoute que d'après un rapport d'un inspecteur, la surpopulation dans un centre de détention d'El Paso est telle que les hommes devaient se mettre debout sur les cuvettes des toilettes pour faire de la place et essayer de respirer un air non vicié. Alors, l'administration Trump pense qu'infliger de telles conditions va dissuader de futurs candidats à l'immigration. Complètement absurde, évidemment, répond le Los Angeles Times, qui ne mâche pas ses mots. Je le cite, c'est non seulement vain, parce que les migrants continuent à affluer, mais tout à fait inhumain. Vous voyez, le mot inhumain, il revient sans cesse. Et pour le grand quotidien californien, les électeurs portent une part de responsabilité énorme parce qu'ils n'exigent pas mieux.
Justement, Ingrid, qu'en pensent les Américains ?
Amélie, on parle beaucoup de la majorité silencieuse et c'est vrai qu'elle existe, cette majorité silencieuse. Et justement, les journalistes espèrent que leurs enquêtes, que leurs reportages entraîneront finalement une prise de conscience parce que, comme l'écrit toujours le Los Angeles Times, une photo d'une petite fille noyée à côté de son père devrait nous parler à tous. Dans le New York Times, le chroniqueur Charles Blow a lui du mal à comprendre même que la plupart de ses concitoyens continuent à vaquer à leurs occupations habituelles alors que des enfants sont enfermés dans des cages. Il finit par s'interroger sur les mécanismes de déni et la difficulté de réagir face à l'atrocité. Il écrit, je le cite, « Trump a installé des camps de concentration à la frontière avec le Mexique. Une question demeure. » Qu'allons-nous faire ?
Des camps de concentration. Ces termes ne sont-ils pas exagérés, Ingrid, justement pour émouvoir l'opinion publique ?
Oui, c'est la députée Alexandria Ocasio-Cortez qui a en fait lancé ce débat après un tweet où elle parlait de camps de concentration. En fait, elle faisait que reprendre l'analyse d'une historienne américaine dans un article du magazine Esquire. Évidemment, vous vous en doutez, il y a une polémique et le Washington Post l'a relayé. Alors d'un côté, certains trouvent que parler de camps de concentration minimise la Shoah. Mais d'autres voient simplement là-dedans une description factuelle et juste. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans certaines communautés, l'émotion est très vive. Ces communautés, ce sont les personnes d'origine japonaise et les Amérindiens. Les uns comme les autres ont connu, eux, l'internement et les camps. Alors dans l'Oklahoma, ils ont même pas hésité à descendre dans la rue pour protester contre le placement de 1400 enfants sans papier et surtout séparés de leurs parents dans la base militaire de Fort Sill. Alors Fort Sill, le New York Times le rappelle, c'est pas un lieu neutre. Des milliers de Japonais, d'Américains d'origine japonaise y avaient été enfermés pendant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs décennies plus tôt, c'est le grand chef Apache Geronimo qui avait été emprisonné là-bas et qui est toujours enterré sur les lieux aujourd'hui. Donc vous voyez finalement, les erreurs du passé hantent encore les États-Unis de Donald Trump. This is America. Don't catch you slipping
now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America, Childish Gambino. De l'histoire encore dans Courrier International, vous publiez tout l'été, Ingrid, des dossiers sur les grands explorateurs et exploratrices. Et cette semaine, donc, c'est Magellan.
Oui, pourquoi Magellan ? Parce qu'il a fait son tour du monde en 1519, il y a exactement 500 ans. Donc, on fête son anniversaire aujourd'hui, Amélie. Mais je vais peut-être vous surprendre si je vous dis que ce périple suscite une folle polémique, folle c'est vraiment le mot, hein, entre les Portugais et les Espagnols. L'affaire dure, c'est le journal El País qui le rappelle, l'affaire dure depuis que le Portugal a déposé un dossier pour inscrire la route de Magellan au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017. Dans le dossier, le Portugal idéalisait complètement Magellan et avait juste complètement oublié de dire que c'était l'Espagne qui avait organisé et financé le voyage. D'ailleurs, c'est même pas Magellan lui-même qui a terminé son propre tour du monde de Magellan donc, mais le navigateur espagnol Elcano. À Madrid, le quotidien conservateur ABC avait mis de l'huile sur le feu et la polémique avait grandi par journaux interposés. Bon, finalement, rassurez-vous, tout est bien qui finit bien puisque les deux pays se sont mis d'accord pour commémorer ensemble l'anniversaire et soumettre une candidature commune à l'UNESCO. Tout un programme pour un exploit qui, je voudrais vous le rappeler, a été accompli avant tout grâce à une chose dont on ne parle pas, une chose qui nous amène bien loin des fanfaronnades nationalistes et des récupérations politiques. Une chose qui sera aujourd'hui mon dernier mot, le hasard.
Le hasard, merci Ingrid Terroir, l'actualité de la semaine avec notre partenaire Courrier International. C'est à réécouter sur franceinter.fr.